Le Maghreb décrypté avec Hassni Rabidi.
Le Maghreb décrypté sur Radio Orient. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il sera question de la Tunisie, où les signaux de tension se multiplient et ils ne relèvent pas tous du même registre. Il y a la rue d'abord, avec des manifestations contre la vie chère, la dégradation des conditions de vie et le sentiment d'un quotidien de plus en plus lourd. Il y a aussi une dimension plus politique portée par les appels à la libération des détenus politiques et par les inquiétudes autour des libertés publiques. Et puis, plus récemment, une autre voix s'est ajoutée, celle des avocats qui ont annoncé une série de grèves dans les tribunaux. Pris séparément, chacun de ces signaux pourrait sembler ponctuel. Mais mis bout à bout, ils dessinent peut-être autre chose, non pas encore un mouvement unique, mais une séquence où malaise social, crispation politique et mobilisation professionnelle commencent à se faire écho. C'est cette articulation que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui avec Hassni Rabidi, spécialiste du monde arabe et directeur du CERMAM, le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Bonjour.
Bonjour Nadia Béchir.
Hassni Rabidi, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, est-ce qu'on voit simplement plusieurs foyers de mécontentement qui coexistent ou le début d'un même moment politique ?
Alors oui, il y a des manifestations, et ces manifestations contre la cherté de la vie. L'inflation a atteint des niveaux supérieurs. Il y a des conditions économiques essentielles qui sont de plus en plus difficiles en Tunisie. La grande crainte, c'est que la force de la Tunisie, qui est la classe moyenne, aujourd'hui cette classe moyenne, elle s'appauvrit de jour en jour. Deuxième élément, c'est bien sûr les libertés publiques et privées. Atteignent tous les niveaux, au niveau des gens et des médias, au niveau des universitaires, au niveau des partis politiques et au niveau des syndicats, où il est devenu très difficile de s'exprimer librement sans avoir à craindre des mesures restrictives de la part des autorités tunisiennes. Le dernier élément qui est à mon avis intéressant, c'est que vous avez aussi toutes les catégories d'âge. J'ai regardé les dernières manifestations, vous avez des jeunes, des moins jeunes, des seniors qui manifestent. Donc vous avez une colère. Cette colère, elle est partagée par toutes les catégories socioprofessionnelles. Et elle est aussi partagée, traversée par tous les âges. Donc il y a une grogne sociale qui n'est pas le fruit seulement d'une élite, mais plutôt d'un échantillon tout à fait fidèle de la société tunisienne.
Est-ce que ces tensions commencent à dialoguer entre elles ou faut-il encore se garder de parler de convergence ?
Ce n'est pas encore un dialogue entre elles, mais toutes ces manifestations, les grèves, les revendications, finalement, convergent vers la nécessité d'améliorer le quotidien et d'ouvrir le champ politique, médiatique et économique et social. Et c'est ça qui est important. Vous avez cité la grève des avocats. Vous savez, quand la justice s'arrête, même si le gouvernement a rassuré que finalement les palais de justice resteront ouverts, en fait, la justice, elle traite de tout. Elle traite du pénal, de l'administratif, du commercial, les affaires familiales, divorce, mariage. Elle traite de tout. Quand la justice est en panne, quand la justice, elle est en grève, ça veut dire que la vie s'arrête. La justice, elle est très, très importante. Et c'est un indicateur qui, quand même, doit pousser les autorités à réfléchir comment y remédier. Le président Kais Saied entame son deuxième mandat et qui termine en 2029. Donc ça veut dire qu'il a 7 ans au pouvoir. Et les Tunisiens regardent un peu que après ces 7 années de pouvoir, les résultats ne sont pas là, ne sont pas tangibles. Et c'est pourquoi, à mon avis, il est urgent en quelque sorte d'arriver à un diagnostic réel. Dernier élément de votre question, c'est pourquoi c'est important maintenant ? C'est important maintenant parce que les questions politiques, les questions par exemple syndicales, concernent probablement les journalistes, les syndicats. Mais la question de l'amélioration du quotidien, quand le citoyen crie, il dit « le citoyen, le Tunisien a faim aujourd'hui », ça c'est difficile parce que c'est une question transversale. Enfin, tous les Tunisiens se retrouvent. Et dans tous les mouvements sociaux, toutes les colères populaires, il faut toujours faire attention et prêter une grande attention et un grand intérêt à la colère sociale produite par un malaise et a une incapacité à joindre les deux bouts, à manger finalement à sa faim. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans certaines catégories.
Justement, vous parliez de la dimension sociale, à quel point la vie chère, la fatigue économique et la dégradation des conditions de vie pèsent aujourd'hui dans le climat tunisien. Est-ce que c'est le terreau principal de cette séquence ?
Il est un des terreaux fertiles à cette problème de mobilisation. Parce que, vous savez, dans les mobilisations sociales, il y a une accumulation, en quelque sorte. Il y a toujours l'étincelle. La Tunisie est passée par là, souvenez-vous, quand les Tunisiens se sont révoltés. Ça a commencé par ce marchand de légumes. En Égypte, c'est aussi, ça a commencé par des grèves à Al-Mahalla, donc où il y avait vraiment beaucoup d'industries textiles. Tous les mouvements sociaux, d'abord, commencent par une accumulation de grèves, de sitting, de manifestations, etc. Et ensuite, il suffit d'une étincelle, d'un fait en quelque sorte, et ça pourrait être même un fait divers, pour que ça s'enflamme. En quelque sorte, aujourd'hui en Tunisie, depuis plusieurs années déjà, nous assistons à des manifestations, à des appels à l'aide. Ce sont des avertissements émis par la population pour dire « la situation n'est plus tenable ». Il faut absolument que les autorités, justement, les entendent.
Mais cette colère du quotidien, Hassni Abidi, ne suffit pas à elle seule à expliquer ce que l'on voit remonter, parce qu'il y a aussi une dimension plus politique, très présente dans les slogans et les revendications ces derniers jours, celle des libertés publiques et du sort des détenus politiques. Est-ce que cette dimension prend aujourd'hui une place nouvelle ?
Oui, elle prend une place nouvelle, mais vous savez, le récit officiel dit que les manifestants ne sont que des centaines, et que ce n'est pas rien par rapport aux millions, aux 2 millions qui ont voté pour Kais Saied, et que la Tunisie est beaucoup plus grande que ces manifestants. Et ça, c'est sous-estimer finalement la force de la mobilisation. Même une dizaine ont un poids, parce que ces 10 ont brandi la peur, les menaces pour aller manifester et dire non au diktat, non à la politique actuelle, soit sur le plan économique et sur le plan social. Donc, à mon sens, la révolution, en quelque sorte, une grande révolution où il y a des masses importantes, c'est une question de temps. Et il vaut mieux qu'un régime, un pouvoir politique, se réforme graduellement en tenant compte de ces justement avertissements émis par la population que d'attendre le point de bascule où vous avez toute la population qui est dans la rue. Là, il n'y aura plus de temps pour les autorités pour dire « je vous ai compris et on va passer aux réformes ». Ça va être encore une fois le changement radical, le départ du régime.
Alors justement, quand une difficulté économique durable rencontre un malaise politique plus profond, est-ce qu'on change de nature dans la contestation ?
Oui, on change de nature parce qu'on ne devient plus l'expression seulement d'un courant politique qui ne s'inscrit pas dans la politique ambiante ou la politique dominante. Mais il s'agit vraiment d'une question qui touche tous les Tunisiens. Peu importe leur affiliation politique, peu importe aussi leur avis concernant les autorités actuelles ou le président Kais Saied. En quelque sorte, les questions économiques et sociales sont la véritable bombe. C'est-à-dire que quand il s'agit de l'économie et de social, quand il s'agit du quotidien, de la qualité de l'enseignement de leurs enfants, quand il s'agit du pain quotidien, quand il s'agit de la santé, la dégradation des systèmes de santé, ce n'est plus une manifestation élitiste, ce n'est plus une minorité qui manifeste, c'est vraiment le miroir de la société.
Tout à l'heure, vous l'aviez évoqué, un autre élément entre désormais dans l'équation et il n'est pas anodin, celui des professions organisées, le fait que l'Ordre des avocats annonce des grèves dans les tribunaux. Est-ce que cela donne à cette séquence une portée différente, presque plus institutionnelle ?
Oui, c'est une portée différente, elle est importante, elle est plus que symbolique. Elle touche finalement un corps qui, un des fondements de la stabilité d'un pays, c'est la justice. Et ça, c'est très important. Les avocats, qu'est-ce qu'ils demandent ? L'amélioration de leurs conditions de travail, non seulement sur le plan économique et social, mais aussi sur le plan juridique, d'avoir plus de garanties, de pouvoir exercer leur métier, leur fonction, de défendre une mission ô combien noble dans des bonnes conditions, à ce que les avocats ne soient pas eux-mêmes poursuivis par les autorités. Et ça, c'est un élément important. Vous avez là, par exemple, la Ligue tunisienne des droits de l'homme qui est menacée. Vous avez plusieurs ONG. Et on sait que la force de la Tunisie, c'est sa classe moyenne et ce mouvement associatif quand même qui était derrière tous les changements positifs dans ce pays.
Est-ce que quand les avocats se mobilisent, c'est toujours un signal particulier en Tunisie ?
Oui, les avocats, c'est... Les juges ne peuvent pas travailler sans avocats, même si le palais de justice est ouvert, mais c'est très difficile parce que les avocats assurent finalement la défense. Ben, la défense des deux parties. Oui, c'est un indicateur pour dire, ben, d'abord, les professions, un avocat, c'est une profession importante. Elle est comme la médecine. Un avocat comme un médecin, ce sont des métiers et des missions qui sauvent des vies humaines. Et l'indicateur, c'est que ça veut dire que le malaise a atteint un niveau très élevé dans la société.
Au final, Hasni Abidi, que dit cette nouvelle séquence de la Tunisie ?
Elle dit que la révolution, d'une manière générale, ou la révolte, n'a pas de limite, n'a pas de délai, et qu'elle peut finalement revenir à tout moment. Elle nous dit finalement que le changement peut arriver d'un moment à l'autre, et que finalement, ce qui a été acquis par la Tunisie, qui a été le berceau de la révolution, c'est elle qui a donné tout de même le tempo pour les autres pays, que, en fait, un changement ou une transition ne s'arrête jamais. Elle peut finalement revenir, elle peut faire des pauses. L'autoritarisme ou le retour d'autoritarisme, il peut étouffer une révolte, mais il ne peut pas devenir une norme de gouvernance.
Merci Hasni Abidi pour ces précisions.
Merci Nadia Benchir.
Vous êtes, je le rappelle, spécialiste du monde arabe et dirigez le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève en Suisse. C'est ainsi que s'achève cette émission, un épisode que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site et Spotify. Merci de nous suivre et à la semaine prochaine.
C'était le Maghreb décrypté avec Hasni Abidi.